L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour, aujourd'hui vous n'entendrez pas la voix de Madeleine Guyot, qu'un événement imprévu retient loin de la radio, mais la mienne. Je m'appelle Marie-Jeanne Pérez et je reçois dans ce studio de Radio FM+, Annie Gondran et Bernard Bloch. Bernard Bloch, je vais commencer par lui, c'est un acteur, metteur en scène, mais aussi écrivain, qui publie ces temps-ci un livre intitulé « 10 jours en Terre Sainte ». Je précise que « Sainte » s'écrit C-E-I-N-T-E. Bernard, ce livre retrace un voyage que vous avez fait il y a quelques années dans les territoires palestiniens. Un voyage un peu particulier puisqu'il était organisé par Témoignages Chrétiens. Et que vous y participiez sans être chrétien, véritablement. Alors, vous pourriez peut-être nous en dire plus à ce propos.
J'avais coutume de dire que j'étais le seul juif dans un groupe de 37 cathos de gauche. Et pendant le voyage, j'en ai rencontré une autre, en tout cas, qui l'a été.
Et qui est avec nous.
Et qui est avec nous aujourd'hui. Et je vais juste, comme ça, pour rentrer dans l'ambiance, je vais vous lire les quelques premières lignes du livre. Mercredi 12 juin 2013. Le Boeing d'El Al reste stationné plus de 2 heures sur le tarmac, à Roissy. Une grève des contrôleurs nous retarde. L'avion est bondé. Autour de moi, les 37 voyageurs du groupe sont reconnaissables au badge Témoignages Chrétiens que nous portons tous sur nos t-shirts. Seul juif au milieu de 37 catholiques de gauche, juif athée de surcroît, avec toute l'opacité de cet apparent oxymore, comment partager mes sentiments avec mes compagnons? La plupart des autres passagers sont juifs, israéliens de retour chez eux, famille en partance pour les plages israéliennes, des uns je suis séparé par mon roman familial, des autres par mon aversion pour ce qu'Israël est en train de devenir. À Paris, il fait gris et froid. Je n'ai encore eu aucun contact avec mes compagnons de voyage, sinon avec mon amie Claudine, assise plus loin dans l'avion. Tendue, mais ne le sommes-nous pas tous, elle ne m'a pas quitté d'une semelle pendant les 3 heures d'attente à Roissy. Je crains de me sentir contraint de parler, d'avoir à commenter trop et trop vite ce qui m'arrivera, sans avoir le temps d'accueillir seul les émotions qui ne vont pas manquer de m'assaillir. Mais sans elle, aurais-je entrepris ce voyage sans cesse repoussé depuis mon premier séjour, 50 ans plus tôt? Bienvenue dans votre pays, nous dit sur l'écran l'énergie quadragénaire du service de presse d'El Al. Mon pays? Quelles sont ces larmes qui menacent? Un sentiment d'appartenance? Mais à quoi? À qui? Je suis dans l'œil de mon propre cyclone, au lieu géométrique de moi-même.
Oui, c'est un voyage donc dans un pays auquel vous êtes lié, puisque vous avez fait votre bar mitzvah 50 ans avant en Israël, et pourtant vous choisissez d'aller dans les territoires palestiniens cette fois. Et pourquoi?
J'ai fait ma bar mitzvah en 63. À 13 ans, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui font leur bar mitzvah, un peu par hasard, parce que toute la famille de mon père avait émigré en Israël dans les années 30, entre 1930 et 1950 en gros. Mon père était juif allemand. Et il voulait que je fasse ma bar mitzvah dans sa famille. Et donc j'ai découvert Israël à un moment où c'était encore un pays de pionniers, un pays de pionniers essentiellement socialistes et un pays pauvre. Quatre ans plus tard, il y a eu la guerre des Six Jours et la victoire écrasante d'Israël sur les pays arabes alentours. Et surtout, depuis la guerre des Six Jours, a commencé l'occupation des territoires palestiniens. Et plus le temps passait, plus mon désaccord avec la politique menée par l'État d'Israël grandissait. À part quelques rares moments où une lueur d'espoir pointait, comme au moment de la visite de Sadat en 1977 à Jérusalem, juste après la guerre du Liban, quand le mouvement La Paix Maintenant s'est développé, et surtout pendant les deux ans qui ont suivi la signature des accords d'Oslo entre 93 et 95, qui se sont terminés par l'assassinat par un juif ultra-orthodoxe de Yitzhak Rabin. Et je ne pouvais pas retourner en Israël, j'avais tellement peur d'être déçu, mais plus que déçu, d'être désespéré par ce qui s'y passait. Je ne pouvais pas y retourner et pourtant quelque chose m'y appelait. Une grande partie de ma famille y vivait et un juif d'origine européenne comme moi ne peut pas ne pas avoir un rapport particulier avec ce pays. Mais je ne pouvais pas y retourner si je n'allais pas aussi et même d'abord dans les territoires occupés voir ce qui s'y passait. Or, on nous met dans la tête, les médias nous mettent dans la tête, qu'il est quasiment impossible pour un juif d'aller seul dans les territoires occupés, que c'est trop dangereux. J'ai pu constater que c'était complètement faux. Et j'ai eu cette opportunité par mon amie Claudine, à laquelle je fais référence dans ces premières lignes du livre, de partir avec ce groupe de témoignages chrétiens. D'abord, j'ai demandé est-ce que j'ai le droit de venir, n'étant pas chrétien. Ils m'ont rigolé au nez. Et je leur ai demandé aussi de pouvoir rester une semaine de plus. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça coûte 50 euros de plus. Et vous pouvez prendre un autre avion. Et donc, j'ai fait ce voyage pendant 10 jours. 6 jours en Palestine avec le groupe. Et 4 jours en Israël pour voir ma famille israélienne.
Et vous, Annie, quelle était votre motivation? Vous étiez aussi du voyage?
Ma motivation était plurielle. D'abord parce que j'appartiens depuis des années au comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, appelé plus facilement CCFD, Terre solidaire, et son président, Guy Orange, était de ce voyage. D'autre part, je suis d'origine, mais sans jamais avoir pratiqué la religion, je suis juive askénaz par ma famille et convertie au catholicisme. J'avais donc à la fois le respect du droit et de la justice entre Israël et la Palestine, et pour moi, c'était un peu retourner au fondement de mon être. J'ai eu l'impression de découvrir les liens profonds qu'on peut avoir en tant qu'homme sur cette terre.
Bien. Oui, c'était à la fois le judaïsme et le catholicisme, bon, qui ont trouvé leur place dans ce pays, sans parler des autres religions.
Tout à fait.
Et alors, comment ça s'est passé, Bernard? Comment les territoires palestiniens, comment est-ce qu'on y vit? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce que c'est pire que ce que vous imaginiez? Moins affreux?
Je dois dire que non, c'est pas pire que ce que j'imaginais. C'est différent. Je dis c'est pas pire que ce que j'imaginais parce qu'il se trouve que dans cette région, les médias qui ont une énorme responsabilité dans l'impasse dans laquelle elles se trouvent, éprouvent une sorte de jouissance à montrer le pire et à n'en montrer que le pire. Or, j'ai rencontré là-bas des gens, d'un côté comme de l'autre. Et à partir du moment où on rencontre des gens, on sent que s'il n'y avait que les gens, tout serait possible. Alors bien sûr, la situation concrète des Palestiniens de Cisjordanie, puisque je ne suis pas allé à Gaza, n'en parlons pas, parce que je pense que là c'est vraiment pire. Mais en tout cas, la situation concrète des Palestiniens en 2013, qui ne s'est pas arrangée depuis, est une situation complètement kafkaïenne, où ils sont confrontés à une bureaucratie qui, comme toutes les bureaucraties, est idiote. Et ils sont même confrontés à une double bureaucratie, c'est-à-dire la bureaucratie israélienne de la puissance occupante et la bureaucratie palestinienne, de l'autorité palestinienne. Et donc ils sont ennuyés, emmerdés, excusez-moi l'expression, sur tout. Sur le moindre déplacement, sur la moindre visite au médecin, sur le moindre projet d'études, par exemple, et surtout de ce qui suit les études, tout est compliqué.
Oui, en particulier les contrôles aux checkpoints qui vraiment rendent le moindre déplacement interminable.
Oui, par exemple, il y a eu un moment où nous sommes allés à l'endroit où il y avait l'ancien grand marché agricole de Cisjordanie, qui a fonctionné jusqu'en 2004, jusqu'au moment, enfin après la deuxième intifada, quand on a commencé à construire ce fameux mur.
Mur dont vous dites, il y a le mur des lamentations et il y a le mur lamentable.
Oui, et nous nous sommes retrouvés au pied de ce mur qui partageait en deux un village, qui avant ce mur était un seul village. Et d'un côté du mur habitaient des Arabes israéliens, c'est-à-dire des Palestiniens de nationalité israélienne, qu'on appelle encore Palestiniens 48, c'est-à-dire ceux qui sont restés en Israël après la guerre de 48, et de l'autre côté des Palestiniens de Cisjordanie. Et notre guide, un Palestinien chrétien, qui est d'ailleurs devenu un ami depuis, qui s'appelle toujours Tony, nous expliquait que un jeune homme de Cisjordanie avait épousé une jeune femme d'Israël, de la partie israélienne, du même village, c'est-à-dire qu'ils habitaient en gros à 200 mètres l'un de l'autre, sauf que c'était des deux côtés du mur. Elle qui a dû choisir de s'installer en Cisjordanie, puisque le Cisjordanien, lui, ne pouvait pas s'installer en Israël. Et du coup, quand ils ont eu leur premier enfant, pour présenter cet enfant à cette famille qui habitait à 200 mètres, ils ont dû faire un voyage de quasiment une journée pleine.
Ouais, c'est
uniquement à cause des checkpoints. Donc ce genre de d'absurdité bureaucratique, de harassement, de harassement, de harassement, qui sont les plus prégnants. C'est ça qui est très visible et où on se dit mais comment supporter une situation pareille.
Mais ce mur, c'est pour quoi faire? C'est la sécurité, c'est pour cacher ou pour séparer Palestiniens et Israéliens. Est-ce qu'on peut parler d'apartheid?
Il faut toujours faire attention quand on utilise des termes qui sont très marqués par une situation donnée. L'apartheid, c'est la séparation telle qu'elle se pratiquait en Afrique du Sud. Je crois que ce mot ne convient pas à la situation telle qu'elle est en Israël. Même si il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'une séparation qui est opérée, mais par exemple, les Palestiniens israéliens, qui représentent plus de 20% de la population d'Israël, donc qui ont la nationalité israélienne, qui ont les mêmes droits que les Israéliens, on ne peut pas dire qu'ils vivent une situation d'apartheid, c'est pas vrai. Ils ont les mêmes droits sociaux, légaux. La seule chose qui les différencie des Israéliens d'origine juive, c'est qu'ils ne sont pas obligés de faire leur service militaire, et que même la plupart ne le font pas. Sauf que, par exemple, ce que j'ai appris là-bas, comme quoi la situation est complexe, les Druzes, qui sont donc des musulmans chiites, et qui et dont le dont une des bases de leur une de leurs valeurs fondamentales, c'est d'être loyal au pays où ils habitent, quel qu'il soit, sont loyaux à l'État d'Israël. Et un des derniers chefs d'état-major qui est mort il y a 2 ans de Tsahal, de l'armée d'Israël, était druze. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas.
C'est terriblement compliqué.
Alors, parler d'apartheid, oui, il y a des choses de ce ordre-là. Il y a autre chose encore. Alors, il y a plusieurs situations. Il y a la situation des Arabes israéliens. Il y a la situation des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est, c'est-à-dire la partie de Jérusalem qui a été annexée par Israël après la guerre des Six Jours, qui ont un statut spécial, Palestiniens de Jérusalem-Est. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie et il y a les Palestiniens de Gaza qui, eux, vivent quasiment, enfin carrément, dans une prison à ciel ouvert. Et de manière de plus en plus invivable. Enfin, on le sait par les... Donc tout ça est très complexe, sans parler de la complexité qui existe à l'intérieur même de la société israélienne, entre les juifs d'origine ashkenaz, c'est-à-dire les juifs qui viennent d'Europe, et les misraï, c'est-à-dire les juifs orientaux, qui viennent du Maghreb, ou aussi des pays arabes, Irak, Syrie, Jordanie, Yémen. Il y a toute une histoire, par exemple. Et ça, si on veut comprendre la situation politique d'Israël, on ne peut pas faire l'économie de comprendre la complexité de la société israélienne elle-même, qu'on voit un peu d'ici comme une sorte, comme une chose comme ça, globalement homogène, alors qu'elle est terriblement hétérogène.
On va écouter le trio Joubran, qui est un trio de 3 frères palestiniens, et on va l'écouter dans un morceau qui s'appelle Majaz. Thank you. Vous êtes sur Radio FM+, dans l'émission l'écho de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, à cette table, nous avons Bernard Bloch et Annie Gondran. Bernard Bloch qui publie un livre qui s'intitule « 10 jours en Terre Sainte », un livre qui raconte un voyage dans les territoires occupés palestiniens et en Israël. Et qui demain sera présenté, enfin Bernard, vous présentez demain ce livre à 18h30 à la brasserie Le Dôme à Montpellier. Alors comment ça va se passer cette rencontre ?
Ben, il y a de quoi faire sur ce sujet, c'est-à-dire, j'en ai déjà fait plusieurs dans des librairies à Paris, en Alsace, puisque je suis originaire d'Alsace. Et l'idée, en fait, c'est que je lis quelques extraits du livre, hein, et puis quelqu'un me pose des questions, en l'occurrence, ce sera vous demain.
Tout à fait. je m'entraîne aujourd'hui.
Et puis on discute, on débat. L'idée, c'est de faire lire ce livre. Je précise d'ailleurs que... j'en ai aussi fait un spectacle. J'ai adapté ce livre, puisque je suis metteur en scène et comédien, assez librement, c'est-à-dire en modifiant les noms pour me donner plus de liberté sur tous les intervenants, parce qu'on en parlera de tous ces gens qu'on a rencontrés pendant ce voyage, aussi bien en Palestine tous ensemble et en Israël quand je suis resté seul. Et le spectacle s'appelle « Le voyage de Dran Rep Kolb ». À la radio, on s'en rend pas compte, mais c'est l'inverse de Bernard Bloch. Et le sous-titre en est « Penser contre soi-même ». Et ce spectacle, on l'a créé au Festival d'Avignon 2017. Puis on l'a joué à Genève, à Paris, et on va le reprendre au Festival d'Avignon 2018, au Grand Pavois, pendant tout le festival. Pourquoi ce spectacle ? C'est parce qu'il permettait de toucher d'autres gens que le livre. Un livre a une vie particulière, une vie, c'est d'ailleurs un peu une chose que je découvre, parce que j'ai écrit beaucoup d'adaptations, de traductions, mais c'est le premier livre où personne d'autre ne l'a écrit que moi. et donc je constate comment l'objet livre vit sa vie, c'est-à-dire que je reçois des lettres de gens que je ne connais pas. Alors que quand on joue un spectacle, on rencontre les gens à la sortie. Et donc les gens qu'on rencontre ne sont pas les mêmes. Et comme c'est un geste qui est autant artistique que politique, c'est vrai que j'ai un objectif en écrivant ce livre, objectif subjectif, mais un objectif quand même. Voilà.
Oui, Annie, Bernard n'est ni journaliste ni politicien. Il a dans ce livre un point de vue complètement subjectif, affirmé d'ailleurs comme tel. Vous avez évidemment forcément eu un point de vue subjectif aussi pendant ce voyage. Comment vous vous êtes retrouvé ? Vous êtes devenu comme ça un personnage de je ne dis pas de roman, parce que ce n'est pas un roman, un récit. Voilà, vous êtes passé du statut de personne au statut de personnage. Et comment vous avez vécu ça ? Comment est-ce que vous avez reçu ce livre ?
D'ailleurs, je précise que Annie, elle garde son nom, même dans le spectacle.
C'est vrai. Ça a été un coup de foudre qui m'est tombé dessus. J'ai été très étonnée. J'avais rencontré, peut-être parmi tous les voyageurs, plus souvent Bernard Bloch, que d'autres. Vous savez, dans des groupes d'une quarantaine de personnes, il y a toujours une petite affinité qui peut se créer entre certains voyageurs. Donc Bernard Bloch faisait partie de cela, et parce que nous avons la même origine alsacienne-lorraine. Ce n'était pas un point de vue politique. Mais j'avais déjà fait des voyages en Terre Sainte avec des catholiques dans le but de la Terre Sainte. Je voulais absolument connaître la Palestine, savoir comment ils vivaient. N'oublions pas que j'avais des attaches précise en travaillant pour le droit et la justice au sein du CCF des Terres Solidaires.
Oui, là, vous avez dû être touché par la pauvreté, parce que ce qui ressort de ce livre, c'est le contraste énorme entre la modernité, le confort qu'on trouve côté israélien, y compris dans les colonies israéliennes, et puis ce qui apparaît comme un pays, des morceaux de tiers-monde de l'autre côté du mur. Enfin,
certainement, la Palestine est tout à fait différente dans son organisation, ne serait-ce que les trois zones A, B, C, qui sont soit sous gouvernement palestinien, soit régies par les militaires israéliens. Je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant. Ce qui m'a frappé, je donnerai deux exemples, si vous permettez.
Bien sûr.
Le premier, c'est près du mur et la maison du couple dont a parlé Bernard l'autre jour. Il, au pied de ce mur, poussait une rose. Et cette rose, parce que elle avait poussé dans ce qui était le jardin de ce couple. D'autre part, la maison avait été en partie détruite pour ériger le mur. L'arrière de la maison, côté Palestine, vraiment en Palestine, était à peu près intacte. Mais on avait détruit la partie sanitaire. Et je me souviens de cette salle de bain à ciel ouvert qui était à 1 mètre, 2 mètres du mur. Bon. Autre point, moi, qui m'avait beaucoup interpellée, mais c'est très subjectif, c'était au pied d'une colonie israélienne sur une route où il y avait un belvédère. La route était fleurie, alors qu'autour, les territoires palestiniens étaient déserts, désertiques. Et nous dominions du belvédère un parc qui dépendait de la colonie, où au centre de ce parc, on aurait pu se croire à Montpellier, il y avait un petit étang avec un jet d'eau. Je l'ai ressenti un peu comme une provocation, je dois dire.
Oui, parce que des caractéristiques aussi des territoires palestiniens, c'est les problèmes d'eau, les coupures d'eau. Ça revient comme un leitmotiv dans le livre. Ce livre, il est divisé en chapitres qui correspondent aux journées du voyage. Hein, c'est une sorte de journal de bord. Et il y a chaque jour, ou pratiquement, parfois même plusieurs fois par jour, des rencontres. Hein, vous rencontrez quelqu'un, alors c'est un prêtre, ça va être un militant pacifiste palestinien, ça va être aussi, ou un soldat israélien qui a monté une association qui s'appelle Breaking the Silence, et qui évoque les traumatismes des appelés israéliens. Bon, il y a toutes sortes de rencontres comme ça. Comment vous avez vécu ces rencontres, Bernard ?
C'était évidemment essentiel. Il y avait les paysages, il y avait la situation, il y avait le mur, et puis il y avait les gens. Et on rencontrait quasiment à peu près une dizaine de personnes par jour. La journée commençait à 6 heures du mat, se terminait à minuit. C'était pas vraiment des vacances. Et le soir, à l'hôtel où on habitait, à Jérusalem-Est, il y avait toujours des conférences. Et il y a eu cette conférence déterminante pour moi de ce soldat, de cet ex-soldat israélien, Yehuda Shaul, un type d'une trentaine d'années, qui devait peser 110 kilos, mesait 2 mètres, avec kippa sur la tête, barbe, un juif religieux, pas ultra-orthodoxe, mais un juif religieux, et qui est un des fondateurs de Breaking the Silence, briser le silence. qui est donc une ONG israélienne constituée d'un millier de soldats israéliens qui ont fait leur service militaire dans les territoires, des hommes et des femmes, et qui rendent compte et qui témoignent de ce qu'ils ont été obligés de faire dans les territoires occupés. Et le discours de ce gars qui avait une voix de stentor, une magnifique voix de basse, que j'ai pensé tout de suite que ça devait faire fureur à Yom Kippour pour chanter le Kol Nidre, nous disait avec un accent de Brooklyn, en américain, hein, puisque il était américain d'origine, nous racontait ce qu'on lui a fait faire. Et là j'ai craqué. Mais vraiment, concrètement, c'est-à-dire je me suis écroulé en sanglots, parce que tout à coup, tous ces discours qu'on nous tenait, que nous tenaient les militants palestiniens, qui parfois étaient sujets à caution, c'était un pays en guerre, et comme dans toutes les guerres, chacun ne donne que les arguments qui vont dans le sens de ce qu'il défend. Et parfois, les arguments étaient pour le moins exagérés. Enfin, les choses qu'on nous racontait étaient exagérées. J'ai pu le constater en vérifiant par après, sur Wikipédia, les informations qu'on nous donnait. Là, tout à coup, c'était un juif religieux, israélien, qui a fait son service de 3 ans et qui corroborait, voire plus, tout ce qu'on nous avait, enfin, une bonne partie de ce qu'on nous avait raconté. Et là, je me suis dit, bon, ben là... Là, c'est ce que j'écris dans mon livre à un moment, il y a quelque chose de pourri dans le royaume d'Israël. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays qui occupe un autre pays, qui remet en cause le droit international, alors qu'il doit son existence au droit international, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça.
On va, puisqu'on est du côté israélien là en ce moment, écouter Avishai Cohen. C'est un jazzman israélien et c'est un morceau qui s'inspire d'une chanson traditionnelle yiddish.
Sur une note un peu plus optimiste pour cette région qui en a vraiment besoin d'optimisme. Voilà un rêve que j'ai fait. C'est l'automne, dans une dizaine d'années, en 2030. Un matin vers 11h, près de 5000 jeunes palestiniens partis de l'université de Beer Sheva marchent en silence vers le checkpoint de Khalandia. Au même moment, 5000 jeunes Israéliens partis, eux, de l'université hébraïque, marchent en sens inverse vers le même endroit. Pris en tenaille, les soldats en faction ne savent plus à quel sien se vouer. Des deux côtés, les manifestants sont rejoints par les habitants de Jérusalem et de Ramallah. Pas un mot n'est prononcé, pas un slogan. C'est le silence. Sur les pancartes, on lit en arabe, en hébreu, en anglais « Down with the wall ». Abat le mur. Un sit-in se met en place qui dure 5 jours et 5 nuits. Des tentes, des baraques à pita, à shawarma, à falafel et même à frites sont installées. La foule est si dense que l'armée n'ose pas intervenir. Les médias du monde entier retransmettent l'événement en temps réel. Au bout de 4 jours, les porte-paroles des deux groupes proposent aux 48 soldats de Tsahal qui gardent le checkpoint de rentrer chez eux. Seuls 8 d'entre eux choisissent de partir. Les autres rejoignent les manifestants. Le mur a vécu, et avec lui la séparation. 2 ans plus tard, la fédération d'Israël Palestine verra le jour.
Bien, mais nous allons rendre l'antenne car le temps s'est écoulé rapidement. Je vous rappelle que demain soir à la brasserie Le Dôme à Montpellier, Bernard Bloch présentera son livre. Et si vous voulez donc en savoir plus, ben, nous serons ravis de vous accueillir à ce moment-là, à 18h30, pour une lecture d'extrait et pour un débat. Merci.
À la Brasserie du Dôme.
À la Brasserie du Dôme. Au revoir.